bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. La bande originale.
Bonjour.
Avec Léla Kadobouzadi.
Bonjour.
Agnès Hurstel. Daniel Morin.
Bonjour Agnès.
Albert Algour.
Bonjour.
Tout à l'heure Tanguy Passureau et notre invité Yann Arthus Bertrand.
Bravo. Bravo.
Merci Yann de venir à ce micro, tout va bien ?
Je suis ravi de venir.
On est ravi de vous accueillir.
C'est l'émission la plus de radio la plus sympa.
Attendez la fin, attendez la fin.
Bien sûr.
Prenez trop de risques. Yann Arthus Bertrand, venez nous parler de la réouverture, parce qu'il y a une pause hivernale comme une espèce de jachère. On a calmé les terres, c'est ça, de cette fondation Good Planet. Alors on va rappeler que c'est en région parisienne, dans le Bois de Boulogne.
Dans le Bois de Boulogne, voilà, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. En famille. Première chose que je rêvais de faire depuis très longtemps, une école de cuisine, pour parler de l'alimentation durable, pour parler de la pauvreté, pour parler du travail des femmes, tout ça à travers la nourriture, avec des chefs qui vont vous apprendre à faire des plats.
Alors, la mission, c'était le point de départ, c'est comment agir concrètement pour la Terre et pour l'humanité. Parce que, comme a dit Hubert Reeves à ce micro, quand on a dit « mais est-ce que la Terre est en danger ?», il avait dit « la Terre s'en sortira toujours, le problème, c'est l'humanité. »
C'est pas sauver la planète, c'est sauver la vie sur Terre telle qu'elle est. Je sais pas si vous avez vu le dernier rapport dans le monde qui est passé il y a quelques jours. Le niveau de CO2, c'est celui qu'on avait il y a 5 millions d'années. 5 millions d'années, c'est-à-dire 5 millions d'années à l'époque où il y avait des arbres en Antarctique. C'est absolument incroyable.
Le CO2 étant ce qui cause l'effet de serre, la pollution, que ce soit la pollution des transports, la pollution de l'agroalimentaire, des industries, de l'élevage.
Le CO2, c'est un peu comme vous fermez votre voiture quand il fait très chaud l'été. C'est-à-dire qu'il y a les gaz, il y a le toit, et puis l'air chaud ne peut plus partir. Donc, espèce de couche au-dessus de la planète. Et puis, il faut ouvrir la fenêtre pour que ça parte. Et aujourd'hui, plus il y a le CO2, moins la chaleur peut s'échapper.
Donc, la Terre ne peut moins respirer, en fait.
Voilà,
on gagne deux,
moins se refroidir, voilà, exactement.
Combien de degrés, en fait, elle se réchauffe on se rend plus compte.
Les chiffres aujourd'hui sont, on parle de 3 à 4 degrés en 2100, ce qui veut dire que la Terre serait tout simplement invivable pour l'homme. Ça fait froid dans le dos de parler de ça. Désolé de vous planter la
matinée. Parce qu'à chaque fois, il y a des prévisions, on parle d'un ou d'un degré et demi, et ça explose à chaque fois.
Ça explose à chaque fois. En fin de compte, toutes ces grandes COP ne servent pas à grand-chose, puisqu'en fin de compte, c'est l'espèce de religion de la croissance du monde. On a tous envie de croître, on veut toujours plus. On ne veut pas croire ce qu'on sait tous. On ne veut pas y croire. On le sait, mais on ne veut pas y croire. On continue parce qu'on est prisonnier de cette croissance et on ne sait pas comment s'en sortir. Et nous, encore, on est un pays riche. On pourrait très bien dire, bon, on va dépenser, vivre mieux avec un petit peu moins. Mais il y a des pays qui ne peuvent pas, qui doivent polluer. Et ça qui est incroyable.
Alors, comment faire ? La fondation Good Planet veut transmettre aux enfants, aux adultes aussi, parce qu'on a tous besoin d'apprendre des choses, veut transmettre la manière dont on peut agir pour la Terre.
Nous, on essaie.
Parce qu'au fond de vous, vous pensez qu'il y a encore quelque chose à faire.
On n'a pas d'autre solution, de toute façon, que d'essayer. Je pense qu'agir heureux et que dans tout ce qui est en train d'arriver, c'est très important que chacun sache qu'il peut faire quelque chose. Et la Fondation Good Planet, c'est un peu un rêve utopique. Je rêvais d'avoir un endroit où règne la gentillesse, la bienveillance, la compassion, l'empathie, où on peut parler un peu de ces vrais problèmes. Parler aussi bien des abeilles, on va en parler tout à l'heure, et aussi bien des réfugiés. Donc vraiment un mélange. Et je pense, mais je le dis avec, c'est peut-être un peu nul ce que je veux dire, mais c'est l'amour qui va sauver les choses. C'est-à-dire l'amour de la vie, l'amour des autres, l'amour de ce qui nous entoure, de respecter ce qu'on aime.
C'est nul.
Les quatre nouveautés pour l'ouverture de la Fondation Good Planet ce samedi sont donc l'école Good Planet, la ruche dont on va parler aussi, la planète océan, une exposition immersive, et la traversée, les bateaux de l'espoir, justement une installation qui témoigne de l'histoire des migrants et des réfugiés. On va parler de tout ça avec Yann Arthus Bertrand, mais d'abord...
Quoi ?
Savez-vous qui est Yann Arthus Bertrand, par exemple ? Yann a eu au moins 12 en France, mais 12 quoi ?
Des enfants.
Non.
Des écoles à son nom.
Exactement. Bien joué Alexis Le Rossignol. 12 écoles à votre nom.
Il a regardé Wikipédia.
Ah, il a bossé.
Il bosse.
Les enfants, c'est bien aussi.
Comment vous avez appris la première école ?
C'est assez impressionnant.
Vous allez avoir une école, Yann Arthus Bertrand.
C'est les enfants qui votent. Alors les enfants, on leur avait dit, il y a Victor Hugo, voilà, il y a plusieurs noms comme ça, et Yann Arthus-Bertrand. Et comme
il n'y avait pas Mbappé à ce moment-là.
Exactement. Oui, ouais. Exactement. Et on a fait des posters dans toutes les écoles de France pour parler de développement durable. D'ailleurs, on va le refaire au mois de septembre sur les ODD, les objectifs du développement durable. Et donc les enfants connaissaient mon nom, voilà. Et c'est les enfants qui votent, et c'est très émouvant. Et quand on va là-bas, on est quand même. Et en même temps, aujourd'hui, quand je vais dans ces écoles, il y a des dessins de la Terre vue du ciel qu'ils ont fait partout. Il y a un potager. Il faut pas détruire la planète. Et puis on arrive là avec nos chiffres sur la, et on a un peu honte, quoi. On a un peu honte. On dit qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on leur propose à ces enfants. Et ils sont tellement utopistes, tellement généreux. Ce qu'est en train de faire la petite Greta, et peut-être le miracle avec cette fameuse Suédoise qui fait
grève tous les vendredis pour sauver la planète.
Je pense que c'est le miracle que moi j'attendais. Si aujourd'hui tous les millions d'enfants faisaient grève en disant on veut pas étudier pour le monde de merde que vous nous préparez pour demain, ça peut changer le monde. Moi, j'y crois énormément.
Autre question concernant Yann Arthus-Bertrand. Vous le connaissez aussi par les photos aériennes. La question est de savoir comment a-t-il découvert la photo aérienne. Il n'a pas dit, tiens, je vais prendre un hélico, je vais partir, je vais
sur le Paris-Dakar.
Non.
Sur un tournage, non.
Non.
Des images, en lisant un livre,
non.
Enfant, en voyageant, tout en simplement,
l'hélicoptère,
en étant fasciné par les
chaque
robots,
semaine, quand il prend son jet.
En insomnie dans l'avion, parce qu'il n'avait pas en avion.
Non.
En regardant
la montgolfière. Exactement.
Oh là là.
Wow. Exactement. Vous étiez pilote de montgolfière.
Même quand j'étudiais les lions au Kenya, je voulais devenir scientifique. Alors, il y a un truc qui est formidable en France, c'est que même si on n'a aucun diplôme comme moi et qu'on a fait beaucoup d'écoles, on était viré de partout, on peut passer une licence, un doctorat, qui ne sera pas reconnu dans les universités, mais vous avez le titre de scientifique.
Quoi ça sert alors?
Et j'ai essayé, ça sert de dire on est scientifique, on peut travailler, on peut avoir des aides de l'université.
Ah, c'est un faux doctorat.
Ouais, ouais. C'est un peu un faux doctorat.
Pour avoir des aides, en plus, c'est détournement.
C'est un vrai doctorat, mais
hier on a reçu un faux docteur. Donc,
pour gagner ma vie,
ça me dégoûte.
Pour gagner ma vie et pouvoir payer ses études, je parlais avec ma femme Anne travaillait au Kenya. J'étais pilote de montgolfière et donc j'ai découvert la photographie aérienne. Mais c'est aussi l'époque où on n'avait pas sur son téléphone toutes les photographies aériennes du monde. Aujourd'hui, vous avez Google Earth. Vous voyez, à cette époque-là, c'est vraiment quelque chose de très nouveau, quoi.
Alors, pour en revenir sur et la pollution, et la consommation, et les hélicoptères, et les photos, vous me voyez arriver évidemment avec mes grands sabots. On vous fait sûrement le reproche de dire, avec vous dites que l'on est en train de polluer et d'abîmer la planète, mais vous, avec vos hélicos en train de faire des photos.
Et mes voyages avion.
Et vos voyages en avion, vous n'avez pas aidé tout ça?
Ben, je suis le premier à l'avoir dit dès l'an 2000. Alors, on fait la compensation carbone à travers des projets qu'on aide des familles indiennes à avoir de l'énergie pas chère. Mais aujourd'hui, on travaille plus pratiquement qu'avec des drones. Et j'essaye surtout de réduire mes vols avions. Parce que les vols avions, c'est ce qu'il y a de pire, hein. J'ai été pour filmer Woman, le film qu'on est en train de finir à Tahiti cet été. Et je me suis rendu compte que j'avais dépensé 2000 litres de kérosène pour aller. 2000 litres, quoi. C'est gigantesque.
Ouais, enfin, vous n'étiez pas seul dans l'avion non plus.
Comment?
Vous n'étiez pas seul dans l'avion?
Non, même par moi, par personne. On était 450 dans l'avion.
Wow.
C'est dingue. L'avion est c'est le plus gros consommateur. D'ailleurs, il y a tout un mouvement en ce moment qui est en train de se faire.
Les Suédois qui
ont fait. Et ça vous donne pas, du coup, envie de pas prendre l'avion du tout et de renoncer complètement?
Je suis prêt à l'annoncer.
Ah ouais?
Oui.
Mais alors, comment faire pour aller à Tahiti sans avion?
Je n'irai plus à Tahiti. Je n'avais pas besoin de plonger. On a filmé des baleines. J'étais pas sous l'eau. J'étais avec un combo, un petit téléviseur pour regarder ce qui se passait, pour filmer, voir ce que faisait l'opérateur.
J'avais
pas besoin d'y aller, quoi.
Envoyer quelqu'un
et voir quelqu'un aller sous l'eau, et moi je regarderai après, essayer d'économiser. Et d'ailleurs, on prépare un nouveau film qui s'appelle Legacy Héritage, qui est donc la suite de Home, où j'essaye de faire tout faire à l'économie, avec des images d'archives, avec des images qu'on va échanger. Tout faire en drone. Voilà, on essaye.
Alors ça, c'est formidable. Mais pour en revenir aux anciens voyages, vous avez dit la compensation carbone. Faut préciser qu'il y a des sites internet sur lesquels, et notamment le vôtre, sur lequel on peut savoir, en fonction du trajet que l'on a fait.
La fondation a été créée pour ça au début. Voilà, vraiment, la fondation a été faite pour la compensation carbone. Je me souviens très bien d'avoir vu le film d'Al Gore en 2003-2004.
Qui était le vice-président des États-Unis.
Voilà, et je me suis dit, le monde va changer. On va beaucoup moins prendre l'avion, on va tous. Et donc, j'ai monté la société association pour faire ça. Donc l'idée, c'est les familles indiennes qui n'ont pas d'énergie, qui utilisent du kérosène, on leur fait un espèce de puits, et à l'intérieur, on met des déchets agricoles avec de la merde d'animaux qu'ils ont, et ça fait du méthane, et ça leur permet d'avoir du gaz gratuit. Et on en a fabriqué 7 ou 8 000, et on est en train d'en faire 21 000.
Donc c'est énorme. Ceux qui prennent l'avion vont sur le site Good Planet, la fondation Good Planet,
oui.
C'est ça?
Oui. Échangent leur carbone qu'ils ont dépensé avec du CO2 économisé en Inde à des familles indiennes. Donc c'est bien parce que c'est très vertueux, parce qu'en même temps, ça aide des familles à avoir de l'énergie. Ça évite que les enfants n'aillent pas, souvent les petites filles, à aller couper du bois très loin. Parce qu'en Inde, souvent, il faut faire bouillir l'eau avant de la boire, parce que elle n'est pas filtrée. Donc tous les jours, on a besoin d'énergie. Et donc, voilà, grâce à la fondation Good Planet, vous pouvez peut-être
échanger votre CO2. C'est une compensation.
C'est pas idéal, mais au moins, c'est bien de le faire. Imaginez que si les millions, près de 800 millions de personnes, de gens qui prenaient l'avion tous les ans le faisaient, on change le monde.
Mais le mieux, ce serait si chaque fois, ça lutte contre la pauvreté
d'une façon formidable.
Si chaque fois, tu coupes un arbre, tu en replantes trois derrière, il y a un moment où ça va être utile comme geste.
J'entends ce que dit Alexis.
Il
ne
faut pas donner bonne conscience à ce genre de
choses. J'entends ce que dit Alexis.
Si tu sors de couper l'arbre, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Non, parce qu'un arbre avec de la biodiversité, il faut quand même des centaines d'années pour retrouver la grosseur d'un arbre. Et
donc c'est pas un pour trois, mais non, mais j'avais lu que c'est un pour, c'est un pour trois ou un pour quatre.
On ne refabrique pas une forêt primaire. On déforeste chaque année.
J'entends, mais pour répondre, c'est se donner bonne conscience. J'ai envie de dire, pardon Alexis, c'est déjà ça.
Oui, c'est déjà ça.
C'est-à-dire que le geste de faire la compensation carbone, si tu dis non mais je vais pas le faire parce que ça me donne bonne conscience, il n'empêche que tu auras quand même pris l'avion. Et
c'est le serpent qui se mord la tête.
Il faut bien faire quelque chose. Non mais que faire?
Ben non, mais je suis d'accord.
C'est entendable aussi ce que dit Alexis, c'est ce côté.
De prendre l'avion du tout.
Une fois que tu l'as pris, que faire? C'est ça. Tu réduis la voilure en termes de déplacement.
Et ça aide des gens à mieux vivre. Important. Mmh. C'est vraiment du solidaire.
Que lui reproche à Yann Arthus-Bertrand, un autochtone dans un village perdu de Papouasie-Nouvelle-Guinée?
C'est un lien avec son physique.
Sa tenue, d'être habillé.
Non,
moustache. C'est Yann Arthus-Bertrand qui reproche quelque chose.
C'est un autochtone qui reproche à Yann quelque chose.
Mais d'avoir acheté son village.
Qu'est-ce que tu fais là?
C'est pas celui-là.
Qu'est-ce que tu fais là?
En Nouvelle-Calédonie?
Ouais, est-ce que c'est en Nouvelle-Papouasie?
De l'avoir piqué sa femme.
De pas être tatoué, de pas être maquillé, de pas avoir de piercing.
Non, alors il est d'autant plus surpris, Yann Arthus-Bertrand, qui n'avait jamais mis les pieds dans ce village.
De ne pas être revenu plus vite.
Non.
Est-ce que c'est un lien avec la géographie de la Papouasie?
Non.
De pas avoir dit bonjour?
Non.
D'avoir dit bonjour.
La paternité?
C'est pas le genre de Yann. Non.
D'avoir parlé avant l'autre?
Non.
D'avoir fait une erreur au niveau des codes de conduite, de comportemental.
Il lui reproche de jamais être venu,
de laisser tourner son hélicoptère pendant qu'il lui parlait.
De ne pas avoir plutôt du pays. Il lui reproche quoi? Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher?
Un habitant en Papouasie, Nouvelle-Guinée.
De pas être tout nu.
Voit Yann Arthus-Bertrand. C'est la première fois que Yann va dans ce pays. Et
c'était le président du pays.
Et cet habitant lui fait un reproche. Et Yann hallucine.
Il sait pas qui c'est.
Il le reconnaît.
Qui reconnaît qui?
L'autochtone.
L'autochtone reconnaît Yann.
Oui, il le reconnaît d'où? Non, c'est ça, mais reconnaît.
D'une émission télé.
De pas lui avoir offert son livre.
Bon, on va donner point à Daniel. En fait, il vous reproche de ne pas lui avoir donné la photo que vous aviez faite de lui à Paris.
Ah. Exactement. Je me souviens, il y avait eu un spectacle. Et moi, j'adore les papous. C'est des maquillages incroyables. J'ai jaune, rouge, des gueules inouïes. Et donc, j'avais été les photographier à Paris. Et j'arrive en Papouasie. Le gars, je ne le reconnais absolument pas. Il commence à m'engueuler en parlant en papou. Hein. Et je dis, mais qui c'est? Qu'est-ce qui se passe? Et alors, il me crie fort. Le guide me dit, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est pas bien. Tout le reportage va être raté. Et je dis, mais désolé, je ne le connais pas, cet homme. Et alors, il rentre dans sa case et il sort une petite boule de neige avec une tour Eiffel, tu vois, qui bouge comme ça. Et je me souviens que je l'avais photographié 4 ans avant. Il y avait une grande affiche d'ailleurs dans son truc. Les papous sont à Paris, dans sa hutte. C'était surréaliste comme histoire.
Yann aurait adoré être photographe de...
Mode.
Mode.
Non.
Animaux, animaux de nature, de compagnie,
Star du rock.
Oui, c'est vrai, j'aurais adoré Animals. Ah oui, j'aurais adoré suivre les... Mais j'étais, moi, j'étais à l'époque de Salut les copains. Moi, j'étais toi, Ray Charles.
Donc, vous auriez aimé être François Perrier.
Exactement.
Pas François, pardon.
Jean-Marie.
J'aurais adoré ça. J'adore toujours le rock, d'ailleurs.
Mais vous faites des portraits quand même de personnes, mais d'anonymes, pas de stars.
Des Français.
Mais si aujourd'hui vous décidiez de faire un livre de stars du rock, tout le monde dirait oui, non, j'imagine, avec votre notoriété mondiale.
Ça m'intéresse moi.
Ah, maintenant moi.
Non, d'accord. Puis après, les jeunes photographes, beaucoup plus malins que moi.
Et il y a pourtant une grande personnalité où il a co-publié un ouvrage avec une grande personnalité.
Dalai Lama.
Pas loin.
Mathieu Ricard, Pierre Rabhi. Catherine Deneuve.
Dandy.
Un président. Ouais.
Qui a dit le pape?
Le pape, moi.
Ouais, exactement. Ouais. Avec le pape François?
Ouais.
Vous avez fait quoi?
Il a fait.
On va pas savoir.
Le pape a fait un texte révolutionnaire sur l'écologie qui s'appelle Laudato Si. Et je cherchais un moyen de financer. Je m'occupe d'un orphelinat à Brazzaville, on a toujours besoin d'argent. Et je me dis comment je vais. Et j'avais ce texte qui était magnifique, qui est un texte très intéressant. Et on a demandé l'autorisation de mettre des photos sur ce texte. Alors j'étais reçu par le pape. C'est rigolo parce qu'on me dit tu vas être reçu par le pape, c'est formidable. Alors j'arrive au Vatican parce que c'est impressionnant, le Vatican a des
peintures partout. Comme des
oui, un peu chargé, voilà, un peu chargé. Hein. Et alors on est dans 500 dans une seule pièce. Ouais. Le pape va vous recevoir. Le pape arrive, il y a 500 personnes, il arrive. Il fait son petit discours, il dit maintenant, je vais tous vous serrer la main et tous vous recevoir, il y a 500 personnes. Je vous demande de ne pas me baiser la main et de ne pas vous agenouiller. Et donc je vois le pape, je présente le livre, exactement 4 secondes, il dit merci beaucoup. Il fait passer à côté, puis il me regarde derrière pour me dire, il y a beaucoup de gens derrière vous, alors faites vite. Voilà. Donc voilà comment j'étais reçu par le pape. Mais je dois le revoir parce qu'on doit faire une vidéo, parce qu'il fait une vidéo pour la protection des océans, il m'a demandé de le filmer. Donc je vais le voir un peu plus longtemps. Et c'est un pape formidable. Voilà.
Vous pensez que c'est le pape le plus écolo, en tout cas c'est celui qui a compris l'urgence?
Oui. De loin, bien sûr. Oui. Mais c'est Nicolas Hulot, d'ailleurs, qui avait été le voir au début, au moment de la COP.
Je comprends pourquoi il a démissionné. Si le pape.
Ah, tu croyais que Nicolas Hulot était le pape?
Est-ce que c'est vraiment le plus écolo, ou est-ce que c'est pas celui qui tombe au moment où la prise de conscience est telle qu'il y a un moment où il se positionne?
C'est un pape qui vient, qui était un pape des pauvres, jésuite, plutôt de gauche, qui avait combattu l'extrême droite en Argentine. C'est quelqu'un qui est
convaincu... C'est-à-dire qu'il faut être de gauche pour être écolo?
Un petit peu, je pense. Et non, mais... Peut-être plus maintenant, mais
en tout cas, ça va pas avec le capitalisme et la surconsommation.
Je pense qu'il faut tout essayer. Ouais. Et donc, quand même, il y a quand même près d'un milliard de gens qui croient, qui sont cathos. Donc, si on arrive à les
convaincre.
Et on fait même des expositions dans les églises de photos. Voilà, on peut commander. Donc, on envoie gratuitement des posters sur l'écologie pour toutes les églises de France. Et je suis très content de faire ça.
Alors, parlons de
même si je ne crois pas en Dieu, mais voilà.
Mais
Dieu croit en vous, il parle.
Parlons de cette fondation Good Planet, qui a pour vocation donc de susciter l'envie d'agir sur la Terre et pour ses habitants. Il y a 400 bénévoles dans cette fondation.
C'est formidable.
120 000 visiteurs l'année dernière, 10 000 élèves sensibilisés, 3 hectares et demi de parc autour de cette fondation, 360 000 abeilles dans le parc, 1 million d'arbres plantés grâce à la fondation, des instruments de musique, des portraits vidéo de Human, des projets pour changer le monde, des cuiseurs solaires qui ont été implantés en Bolivie, au Pérou, dans les Andes.
Ça, c'est la compensation carbone. Voilà.
Des écoles, 8 écoles bioclimatiques construites en Inde et au Maroc, 21 000 biodigesteurs. C'est quoi un biodigesteur?
C'est une espèce de réservoir à méthane.
À purin qui fait du gaz.
Voilà, exactement.
D'accord.
C'est comme une fosse septique, en gros.
Et en 2019, la Fondation renforce donc sa mission de sensibilisation auprès des enfants, des familles, des entreprises aussi, qui ont un rôle important, avec notamment ces 4 nouveautés. L'école Good Planet, dont vous avez commencé à parler tout à l'heure, dédiée à l'alimentation et à l'agriculture durable. C'est-à-dire qu'il y a des chefs de cuisine qui vont venir faire des recettes
en permanence,
avec des produits bio et des produits de saison.
Voilà, exactement. Non, mais c'est à travers la nourriture, on peut parler de tout. On peut parler du changement climatique, pas de la pauvreté, on peut parler des pesticides, on peut parler pourquoi c'est important de manger bio, pourquoi il faut manger moins de viande industrielle, c'est une espèce de... Et en même temps aussi le plaisir, quoi, le plaisir de faire, le plaisir, le bonheur de partager. Vous savez, il paraît qu'on fait de moins en moins la cuisine, on achète des plats préparés. Aujourd'hui, il faut peut-être revenir à des choses plus anciennes et plus intéressantes.
La ruche, c'est une création artistique. Alors, c'est formidable. Unique au monde. Hein.
Formidable. C'est les artistes qui ont fait une ruche qui fait 15 mètres de haut dans la tour. Et c'est un truc que je rêvais de faire depuis très longtemps avec des grosses maquettes qui sont 20 à 30 centimètres de long, avec des maquettes de rennes, des maquettes de larves, des maquettes de larves, des maquettes de bourdons qu'on peut prendre et expliquer la vie des abeilles.
Donc on vit l'expérience grandeur nature comme si nous étions une abeille.
C'est une espèce d'énorme installation artistique avec un alvéole. Je ne l'ai pas encore vu marcher. Non,
est-ce qu'on se balade dedans?
On est sur la tour, ça fait 15 mètres de haut, on peut marcher sur 10 mètres de haut, pas plus. Voilà.
D'accord. Il y a également une exposition, tout à l'heure on disait en totale immersion, Planète Océan, c'est un voyage dans les profondeurs, c'est ça?
C'est formidable, il y a 5 salles avec des vidéos. Alors Jacques Perrin nous a donné ses films, ce qui est formidable, Denis Lagrange aussi. Il y a une immersion avec des lunettes, ça fait virtuel,
3D,
dans les coraux du bateau Tara, qui nous a donné des films. Et puis il y a aussi une chose sur le plancton, j'ai vu ça hier, je l'ai découvert ça hier, c'est absolument incroyable. C'est sur des énormes écrans, avec la voix de Jacques Perrin, la musique, les films, c'est vraiment pour c'est très familial, et c'est formidable.
Et la traversée, alors là, vous tendez la main aux réfugiés.
Oui, tu sais très bien, comme je suis attaché à ça. Il y avait des bateaux en bois qui étaient à Lampedusa, qui allaient être cassés. Il y a un copain qui m'appelle, me dit, c'est quand même incroyable qu'on va casser ces bateaux qui sont historiques. Faut pas oublier qu'il y a 2500 personnes qui se sont noyées l'année dernière en traversant. Donc je trouvais que c'était scandaleux qu'on casse ces bateaux. Donc on les a fait venir. Il y avait une petite installation avec des gilets de sauvetage que m'a envoyé SOS Méditerranée pour parler du problème des réfugiés. C'est un problème qui me touche, parce que quand vous vivez dans un pays africain, que vous avez ni démocratie, ni éducation, ni travail, ni système de santé, vous n'avez pas d'autre moyen que de venir ici,
ou qu'il y a la guerre.
Donc, si vous étiez là-bas, on ferait la même chose. On irait vers ce paradis. Puis ce qui a changé aussi, c'est que tous les gosses, ils ont Internet. Ils savent très bien quel est le salaire ici, comment on vit. Donc, cette espèce de paradis incroyable qu'on voit tous les jours à la télévision, on a envie d'y aller. Donc, les gosses ne parlent que de ça. C'est absolument incroyable. Moi, les gosses qui sont dans l'orphelinat à Brazzaville, ils m'appellent sur WhatsApp en permanence. Ils savent, par Internet, ils savent exactement ce qui se passe. Voilà, et je pense que la grande crise migratoire n'a pas encore commencé. Voilà, il faudra qu'on apprenne. Alors, je sais pas ce qui va se passer. C'est pas en tout cas.
Oui, parce que en même temps, ceux qui disent la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde disent avec.
La France ne l'accueille pas déjà cette grande misère.
Les Allemands ont accueilli 1 500 000 personnes. Mmh. Et il y a pas de camps comme on a ici autour de Paris, autour du périphérique en Allemagne. C'était des Syriens, peut-être moins d'Africains, c'était un peu plus simple, mais quoi qu'il en soit.
Non, mais peu importe d'où viennent
exactement,
les réfugiés,
voilà, c'est ça, il faut savoir les accueillir et leur tendre la main, je pense. C'est une installation qui est très émouvante parce que
qui n'est pas prêt à ça finalement? Est-ce que c'est nous, la population française? Est-ce que ce sont nos dirigeants, les infrastructures, les politiques, l'administration? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi ça prend pas?
C'est nous. On a les hommes politiques qu'on mérite, ils nous ressemblent. Donc voilà, c'est dire.
Même nous, citoyens, on a quand même tous un discours un peu ouvert sur les migrants, mais on en a pas beaucoup à la maison, quoi. Je veux dire, on en accueille pas.
J'ai pas la place. Hein.
Moi non plus. Mais
les trois.
C'est la différence qu'il y a avec Yann Arthur Bertrand qui lui le fait.
Ouais, voilà.
Mais j'ai une grande maison, il se trouve que j'avais les moyens de le faire. Donc j'accueille chez moi des. Mais c'est un plaisir. Mais j'ai adoré ça. La petite Ayat qu'on était chez nous, c'est comme ma fille. Aujourd'hui, on l'a aidée. Elle fait ses études. Elle parle français couramment. Elle est arrivée. Elle parlait pas un mot. Elle a eu un bébé. Je l'ai accompagnée à l'hôpital. Mais j'ai adoré faire ça. C'est un plus dans ma vie d'avoir fait ça.
Il y a des petites mairies aussi en France qui accueillent des réfugiés,
J'ai la fameuse sœur Marie-Jo. Là, j'avais plusieurs fois appel pour elle qui s'occupe de réfugiés à la porte de la chapelle. Elle m'appelle souvent.
Vous aviez lancé un appel.
Oui, d'accord. Et en ce moment, s'appelle Mouna et son fils Moussa. Qui sont très sympas et donc voilà qui sont chez moi, mais ça me dérange pas du tout, c'est un plus dans notre vie, quoi. Voilà.
On parle de cette fondation Good Planet avec Yann Arthus Bertrand qui est notre invité, et cette fondation qui va aussi bien nous éclairer, nous éduquer, nous faire comprendre finalement quels sont aussi bien les gestes au quotidien que les gestes à long terme. Il n'y a pas que l'immédiat, il y a aussi les modifications dans les 10, 20, 30 prochaines années.
Il se trouve que j'ai la chance incroyable d'avoir ce lieu et que je devais y faire quelque chose. Voilà, on a des bureaux au départ, il ne s'y passait rien.
Le lieu appartient à la mairie de Paris.
Paris qui nous l'a prêté.
Voilà.
c'est une chance incroyable d'avoir ce lieu pour recevoir des gens. Formidable. Alors, bien sûr, il faut trouver des mécènes. Je suis un peu un mendiant professionnel en permanence. Je demande à des gens, aidez-moi pour garder ce lieu. Mais en ce moment, il se passe quelque chose. Il y a un mouvement et c'est moins difficile qu'avant. L'école de cuisine, c'est formidable parce que d'abord, j'annonce qu'on va lancer avec la Fondation au mois de septembre une grande campagne pour essayer de faire baisser la TVA sur le bio. Je trouve ça scandaleux que le bio en France coûte 30 à 40% plus cher que le reste. Ça veut dire que les gens qui n'ont pas les moyens ne peuvent pas manger bio. Et ça, c'est honteux. Donc, on va lancer une campagne.
La bonne idée, en tout cas, c'est plutôt que de chercher à taxer, à faire la taxe carbone pour faire payer les pollueurs, on pourrait peut-être aussi encourager ceux qui ne veulent pas polluer.
Faire baisser la TVA sur le bio. On était hier avec un grand distributeur qui a accepté de prendre à sa charge la TVA sur le bio afin que le bio... Et puis, vous savez,
afin que le bio soit abordable.
Mais moi, je suis très radical sur les pesticides. On a perdu, écoutez bien ça, 30% des passereaux en France. Ça, c'est des chiffres du muséum, quoi, des scientifiques. 30% des oiseaux, 80% des insectes volants ont disparu en France. Les sauterelles, j'ai plus de sauterelles dans mon jardin. Je me souviens, quand j'étais gosse, on prenait les sauterelles, puis j'en avais pêché avec mon grand-père, on ramassait les sauterelles. Il n'y a plus de sauterelles.
C'est de votre faute, là.
Comment ?
Bah oui, si vous les preniez pour aller pêcher, évidemment, les pauvres.
Non, et 30% du territoire français, 30% est aspergé de pesticides et d'herbicides.
Et on a procrastiné l'histoire du glyphosate et on l'a reporté. Ouais, parce qu'il y avait que 30
qu'on va pas faire comme avec l'amiante, il y avait que 30 ans pour l'interdire.
Il y avait que 30 députés pour voter aussi cette loi à 2h du matin.
Ouais. C'est hallucinant ce manque de courage politique qu'il y a. Et si on mangeait tous bio, il y aurait pas de Monsanto. Je répète. Si on mangeait tous bio, il n'y aurait pas de Monsanto. C'est pour ça qu'il faut que le bio soit abordable pour tout le monde. Ça donnerait énormément de travail, des millions d'emplois. Mais il faut que l'État aide les agriculteurs à une reconversion. Ça me paraît indispensable.
La Fondation Good Planet ouvre ses portes ce week-end avec beaucoup d'événements toute l'année. On va en parler, que ce soit des événements musicaux, des concerts, des conférences, des animations.
C'est Monsieur Lornac qui sera dimanche, qui viendra jouer chez nous. Voilà.
Très bien. Et ça va être un succès, Père Albert, cette Fondation Good Planet.
Mon cher Nangui, bien sûr, ça va être un succès. Et j'ajouterai un succès nécessaire. Alors, autant de menaces pèsent sur le devenir de notre belle terre, qui, si on laisse faire les salopards inconséquents, on vient d'en parler, qui veulent la corrompre en la souillant sans vergogne, eh bien, elle roulera bientôt dans les espaces infinis. Non plus comme la merveilleuse boule bleue que Dieu créa pour nous, mais comme une boule de vis sordide, malaxée par les mains sordides du démon. Ah, par les poils de Saint-Maurin. Maclo, je pourrais aller faire chroniqueur chez le beau Mathieu Vidard. Coco, Mathieu, je sais pas où il est. Bon, si, m'écoute. En attendant, je bosse ici et je ne peux que me réjouir de la réouverture de la fondation God Planet pour laquelle...
Non, c'est good.
Oui, mais en français, deux os, ça se prononce. Oh. Pour laquelle Yann Arthus Bertrand, Coco, Yann, se bat avec une ardeur magnifique, comme mon patron François qu'on a évoqué. Parmi les nouveautés qui ont été évoquées, je suis particulièrement intéressé par la ruche géante aux 60 000 alvéoles. Car quoi de plus beau, comme le chanta jadis l'immense Bourville, quand les seins se gonflent et s'abandonnent à la caresse du printemps, et dans la ruche tourbillonne, prêtes à prendre leur élan, le refrain, les abeilles, voilà. Oui, quoi de plus beau que de voir les abeilles se posant par cent et par mille sur les fleurs dont s'entr'ouvrent à peine les pétales humides pour leur pomper, leur butiner le pistil
calme-toi.
J'ai chaud. Vous pouvez donc compter sur moi, cher Yann, pour vous emmener mes jeunes en recherche, tout bouillonnant de sève et de curiosité, et qui ont hâte de jouir d'un tel spectacle. En plus, je viendrai en voisin, car vous et moi sommes installés en plein cœur du bois de Boubou, la fondation God Planet au domaine de Longchamp, tandis que ma camionnette bâchée cuir clouté noir multifonction, chapelle, halte garderie, kebab, sauna mobile, centrale à charbon, est garée à côté de l'hippodrome d'Auteuil, où je t'ai parfois croisé.
Oui, parce que c'est pas loin, la Fondation.
Oui, dans les contre-allées ombragées, ça, c'était avant le réchauffement climatique. Voilà. Bonne émission.
Merci, Albert. La bande originale. On parle de la Fondation Good Planet et j'ai eu un sentiment tout à l'heure, ne serait-ce qu'à votre voix, que vous êtes de moins en moins optimiste quand même. Vous voulez garder ce sourire, vous voulez garder le positivisme et encourager les gens à venir évidemment à la Fondation Good Planet. Mais au fond de vous, sincèrement, il n'y a pas un truc qui pique un tout petit peu ?
Non, mais j'ai accepté.
C'est le combat de votre vie aussi, tout ça.
Oui, je pense que donner du sens à sa vie, c'est une chance formidable de faire le job que j'ai. Formidable, quoi. J'ai été voir les plus belles endroits du monde, essayer d'envoyer des messages. J'ai la chance inouïe de faire ce travail. Mais aujourd'hui, le changement climatique est là. On ne l'arrêtera pas. On le sait tous. Si aujourd'hui, on arrêtait d'émettre le CO2 complètement, la Terre continuerait à se réchauffer pendant au moins 50 ans.
C'est impossible. Donc, faut accepter.
Ouais, on va vers un monde inconnu.
Et c'est impossible d'arrêter.
On va vers un monde compliqué et inconnu. Maintenant, il n'y a rien d'autre à faire que continuer à se battre. Quoi faire? Je vais pleurer dans mon coin. C'est les Africains qui disent, ça ne sert à rien de pleurer tout seul dans son coin. Il faut allumer une lumière. Ben, allumons une lumière. Mais moi, je suis quelqu'un qui pense que ça vient de nous tous, quoi. Ce n'est pas les politiques, ce n'est pas les lobbies. Qu'est-ce que je peux faire, moi? C'est ça qui est important. Je ne suis pas pessimiste, parce qu'on est, je suis optimiste de nature. Mais les chiffres te rendent quand même extrêmement pessimiste. Le dernier rapport, là, dans le monde, il y a quelques jours, sur le CO2, c'est incroyable. Dans le temps, on consommait 85 millions de barils de pétrole par jour il y a 10 ans. On en consomme 95 millions aujourd'hui. Ça veut dire qu'en 10 ans, presque 10% plus d'énergie fossile qui sont responsables. Alors, et puis on est en contradiction permanente.
J'arrive pas à savoir si le CO2 vient plus des transports dans le monde que de l'industrie agroalimentaire. Parce que en fonction des sources, en fonction des sources et des rapports qu'on lit sur ce CO2, on n'arrive pas à se rendre compte de ce qui est la source.
L'énergie fossile, la plus importante. Le pétrole. Qui est une énergie incroyablement forte. On estime qu'un litre de pétrole, c'est comme 100 personnes qui travaillent une semaine, vous vous rendez compte, la puissance. Donc ça sert pour tout. Et aujourd'hui, notre agriculture dépend complètement du pétrole, pour les engrais, les pesticides, les tracteurs, les livraisons, les emballages.
Donc tout est lié, en fait.
Tout est lié, voilà. Est lié.
Y compris lorsqu'on se sert des transports pour venir nourrir le bétail, y compris la manière dont on transporte le bétail, et ainsi de suite, quoi. On ne saura pas qui de l'œuf de la poule pollue plus. Mais en tout cas, c'est la masse, toute pollution se rajoute.
L'énergie fossile, c'est le centre de notre économie.
Vous dites tout à l'heure que vous avez dit, en gros, il faut être radical. Ouais. Les pesticides, Monsanto, donc le bio, faire en sorte que le prix soit accessible à tous. Est-ce que ça ne vous donne pas envie non plus d'être plus radical aussi sur nos habitudes de vie? Parce que on parlait tout à l'heure des compensations. Si on en est à faire du calcul de compensation, c'est qu'on n'en est toujours pas à prendre nos responsabilités et à considérer. C'est ce que sous-entendait aussi, je crois, un peu Alexis, ce côté genre, on se donne un peu bonne conscience. Certes, on fait au moins quelque chose, c'est vrai. C'est le collectif qui agit. On permet à d'autres plus pauvres de bénéficier de cette énergie. Mais en réalité, c'est une sorte de solidarité un peu dans un deuxième temps. C'est parce qu'il...
C'est mieux que rien.
Oui, non, mais alors, sans doute, c'est mieux que rien. Mais quand on en est au point où on en est aujourd'hui, est-ce qu'on se contente de mieux que rien? Quand on commence à dire Monsanto, c'est niette, on est radical. Est-ce qu'on peut pas être... On n'a pas envie ou on va pas devenir encore plus radical? Est-ce que ce sera pas votre position à vous?
Bah, c'est ce que font les survivalistes, hein, les gens qui...
Mais moi, je mais vous pense... Moi, quand vous dites bientôt, je vais annoncer que je ne prendrai plus l'avion, c'est déjà un premier pas.
Vous me culpabilisez, vous avez raison. Je suis sans doute pas assez radical.
Non, je ne cherche pas à vous culpabiliser.
Mais vous avez raison complètement. Je le dis, je dis avec tendresse. Vous avez raison, sur le fond.
Moi, je trouve que vous êtes un salaud.
Moi, j'ai mon fils qui est vegan et qui me dit, papa, tu n'en fais pas assez. Et il me le dit tout le temps. Il me dit, lui, il est maraîcher. Et il me dit, moi, un SMIC me suffit si je vis avec ma famille, que je me sens utile au monde. Ouais. C'est lui qui a raison complètement.
Je ne sais pas si c'est lui qui a raison. En tout cas, il défend son point de vue. Non, parce que c'est compliqué de dire c'est bien, c'est mal. Mais moi, je me pose les mêmes questions. Et quand vous parlez des paradoxes dont on est tous bourrés, notre façon de prôner quelque chose, mais on prend la question du migrant, c'est pareil. En gros, on est tous prêts à ouvrir nos portes, mais en réalité, on n'ouvre pas la chambre précisément pour accueillir un enfant, une mère, un père. On ne le fait pas. Donc, je me pose toujours cette question quand on est à la tête, comme vous, d'une fondation comme celle-ci, qui est hyper positive, quand on est un porte-voix, quand on est écouté. Qu'est-ce qu'on défend?
Sauf
qu'est-ce
qu'on défend comme propos? Je te l'ai dit, ça, il le fait. Il ouvre sa porte, il accueille.
Mais ça, je sais que vous le faites, mais je me dis, ça ne doit pas être facile non plus d'être porte-parole d'une cause comme celle-ci, même si vous faites le plus beau métier du monde. Vous avez assisté à je ne sais combien de COP. Vous avez vu l'immobilisme.
Le paradoxe de Nicolas Hulot, s'il a démissionné, c'est pour ça. Il n'était plus du tout à l'aise dans le poste qu'il avait.
Il s'est senti impuissant.
Il s'est senti impuissant,
mal à l'aise. Vous en avez parlé avec lui.
Et puis mal à l'aise, tout simplement.
C'est ça qui est dur, je trouve, de prendre ses responsabilités publiques sur un sujet comme celui-ci, parce qu'on est toujours soit pointé du doigt, ou soit soi-même, si on se remet en question, on se dit, mais je ne suis pas crédible tout le temps.
Si les électeurs ne veulent pas changer, comment vous voulez le changer? S'ils ne veulent pas la taxe carbone, s'ils veulent pas arrêter les pesticides, comment? On ne peut rien faire. Donc il se sentit impuissant et certainement découragé.
Il ne prendra plus jamais l'avion. Pourtant... Voici Alexis Le Rossignol. Si je te vois dans un aéroport, toi, je t'éclate.
Ah ouais, comme ça. Bon, en tout cas, moi, je suis très heureux d'être assis à côté d'Inertus Bertrand, parce que je me souviens, quand j'étais môme, on avait la Terre vue du ciel à la maison et on feuilletait ça en rêvant. Par contre, c'était pas un bouquin très pratique à lire allongé. Hein, il était un peu au niveau du volume. Moi, j'ai longtemps attendu la version de poche, puis finalement,
non, elle n'est pas sortie.
Donc, mais des livres comme ça, c'est vrai que ça donne envie de voyager, parce que l'homme est un peu basique. Tu lui montres une photo d'un endroit merveilleux, il veut aller constater par lui-même l'existence réelle de cet endroit. Si tu veux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des milliers de gens qui font le tour du monde. C'est super de faire le tour du monde, hein, parce que quand tu reviens 12 mois plus tard, tu peux dire « Le monde, j'en ai fait le tour ». Souvent, le tour du monde, c'est une espèce de récompense. Après des années de dur labeur dans un bureau climatisé à La Défense ou à Cergy-Pontoise, tu sens qu'il y a un côté aller, ras-le-bol. Je me barre, je vais faire le tour du monde, je vais rencontrer des gens simples, des gens qui se baladent avec une machette dans la jungle, loin de cette folie capitaliste qui nous pousse à nous lever tous les jours à 6 heures pour aller faire des dossiers vides de sens. Super, et c'est quoi ta prochaine destination ? New York, une semaine, j'ai trop hâte. Il y a 2 ans, il y a une Américaine qui a réussi à se faire sponsoriser pour aller dans tous les pays du monde le plus rapidement possible. Elle est allée dans 196 pays en 15 mois. Donc elle est restée entre 2 jours et 5 jours dans chaque pays. 5 jours pour des pays comme l'Australie ou la Chine, c'est bien. C'est ce qu'il faut. Au bout de 5 jours, tu peux dire « j'ai fait la Chine ». Je ne juge pas l'utilité d'un tel record. Hein. D'ailleurs, les records ont souvent le point commun d'être inutiles, voire complètement débiles. Si un jour vous vous sentez con, un conseil, feuilletez le Guinness des records. Il y a des perles.
Ah ouais.
Parce que c'est plus simple d'entrer dans le Guinness Book que d'avoir le prix Nobel de chimie, si vous voulez. Hein, il suffit d'être le premier à faire un truc très con. Par exemple, un artisan glacier qui a réussi à placer 109 boules sur un cône. Voilà.
C'est bon. C'est génial.
Ou cet homme qui détient le record du monde de t-shirts enfilés les uns sur les autres, avec 247. Voilà. Moi, l'autre jour, j'en portais 2 et Marina Rollman m'a dit « mais c'est n'importe quoi ». Ça m'a travaillé pendant quelques jours, mais en voyant le champion aux 247 t-shirts, je me suis dit « ça va, il y a pire ». Mais ce qui m'épate, c'est que des organismes lui ont donné de l'argent pour ça. Notamment l'IIPPT, je ne sais pas si vous connaissez, l'Institut international de la paix à travers le tourisme, parce qu'elle s'est engagée à compenser son empreinte carbone en plantant des arbres dans les pays traversés. Voilà. On ne sait pas combien d'arbres elle a planté, mais elle a dû passer pas mal de temps à creuser des trous parce qu'elle a quand même pris 250 fois l'avion en un an. Voilà. Mais 250 fois par an, l'avion en un an, oula, c'est dur ça. C'est le rêve, et là ce qui suit encore plus dur, de tous les hémétoaérosaïques. Gophil. Vous savez ce que c'est ?
Qu'est-ce que c'est ?
C'est les collectionneurs de sacs à vomi des avions.
Ah !
C'est une collection. Ouais, ça existe.
Ça existe. Ils collectionnent. Voilà. C'est-à-dire qu'ils les collectionnent.
Ils
les volent, quoi.
Mais alors, vide, si vous en avez à la maison,
vide ou plein.
Sachez qu'ils peuvent intéresser les collectionneurs, mais qu'ils ont plus de valeur s'ils n'ont jamais été utilisés. Ouais, ah, effectivement. Okay. Ce qu'on voit de plus en plus aussi, c'est les tours du monde en famille, quand les enfants sont jeunes. Là, il y a beaucoup de parents qui font ça et qui sont forts quand même. Parce que toi, tu mets 2 mois à caler un week-end à Blois avec des copains qui sont ingénieurs mais qui ne savent pas gérer un planning. Et eux, ils partent à 6 avec un bébé de 8 mois et un chien, tu vois. Et tout se passe bien, ils sont zen. Parce que c'est hyper simple de voyager aujourd'hui. Tu réserves tout en ligne. Quand tu arrives sur place, il y a la Wi-Fi. Avant, on préparait tout. On partait avec une trousse à pharmacie grosse comme ma bibliothèque. On connaissait le pays avant d'y avoir mis les
joli
pieds.
Rire. Bravo, Agnès. Yes.
Maintenant, les gens partent au Pérou comme s'ils allaient à la Tranche-sur-Mer, tu vois. Et quand ils arrivent, ils disent, ils s'emmerdent pas les Quechua, ils ont copié le nom des sacs à dos de Decathlon, tu vois. Tout ça ensuite pour arriver au Machu Picchu et prendre la même photo que tout le monde. Vous la voyez, là, cette photo du Machu Picchu, oui, c'est toujours exactement le même angle. À croire que derrière, il y a des autotamponneuses et une baraque à frites, tu vois, ou des requins qui tournent un porno interracial, on sait pas. Faut cacher quelque chose, tu vois. Et la moitié du temps, les gens reviennent en disant « c'était super, on s'est senti comme à la maison ». Tu sais où on se sent bien aussi comme à la maison ? Ben, chez, à la maison. Même pas besoin de voyager, en fait. Et puis avant, quand on partait loin, on organisait une soirée diapo au retour. On invitait la famille et les amis. Aujourd'hui, tout le monde s'en fout des gens qui ont fait le tour du monde. Pour faire un tour du monde, il suffit de réserver un billet d'avion multidestination et de suivre les autres voyageurs qui font pareil. Il n'y a pas d'exploit derrière ça. Non, vraiment, si vous voulez réaliser un exploit digne de ce nom, enfilez 248 t-shirts ou mieux, mettez 110 boules de glace dans un cône. Voilà.
Merci.
Alors, le Machu Picchu, parce qu'il y a une petite colline, et ouais. C'est l'endroit où on peut voir le Machu Picchu d'en haut.
C'est ça.
Voilà.
Donc c'est là où ça, c'est le mieux
toujours, c'est toujours,
tout le monde,
c'est toujours la même photo. Toujours la même photo, exactement.
Sinon, les pyramides en Égypte, il n'y a qu'un axe pour pas voir la ville et voir les pyramides derrière. Dans l'autre axe, tu vois la ville juste derrière, et ça, c'est une catastrophe. À propos des sacs vomitoires dans les avions, je ne dénoncerai pas un camarade qui a pour humour de, quand il prend l'avion.
De les percer.
Non, de juste les décoller très discrètement et de les replier. Donc, il décolle le fond, il les replie, ce qui fait que le suivant, lorsqu'il vomit, se retrouve tout sur les genoux.
Mais c'est horrible.
C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Non, je ne peux pas le dénoncer parce qu'il travaille en plus sur une autre radio. C'est Manu Lévy, c'est Manu sur Énergie. voici la bande originale en musique de Arthus Bertrand qui écoutait en 46. J'imagine que vous n'écoutiez pas spécialement ça à votre naissance, mais c'est une musique qui vous rappelle la famille.
Ma mère adorait l'Orphée de Gluck, un des premiers opéras, et elle l'écoutait sur un micro-sillon noir, là, en boucle, donc j'ai été bercé par ça. Ouais.
Et s'il fallait reparler de votre enfance, de votre famille, comment est-ce que vous la décririez? Tout à l'heure, vous avez évoqué la croyance, le pape et la religion.
D'avoir fait ce film sur les femmes, excuse-moi, ça m'a fait beaucoup penser à ma maman. Et d'avoir écouté ces 2000 femmes qui ont parlé. Et je me suis aperçu que j'avais sans doute pas assez aimé ma mère. C'est pas agréable à dire, d'ailleurs.
C'est courageux de le dire.
Et la personne qui était la clé de ma famille n'était pas mon père, que j'admirais, c'était ma mère. On avait 7 enfants et elle faisait tout, quoi. Et avec un courage incroyable, avec une résignation devant l'autorité de mon père. Voilà. Et c'était une femme formidable.
En 1965, vous écoutiez. Hey, mama, don't you treat me wrong. Come and love your daddy all night long, all night long. Hey, hey. Il se passe quoi autour de cette musique, Ray Charles?
Ça, c'est Salut les copains. J'étais un obsédé. J'étais pas question, je rate Salut les copains.
Vous écoutiez l'émission?
Ouais. Ah, mais j'étais comme un fou. J'ai reçu même des prospectus que je distribuais à la sortie des écoles.
L'émission de Philippe Aki.
Voilà, exactement.
Et en 65, Yann Arthus Bertrand. Vous mentez et vous parvenez à décrocher un rôle sur...
Ah oui, mais c'est pas Yann Arthus Bertrand.
Non, non parce que vous aviez pris...
C'est Yann Arthus.
Yann Arthus.
Mon père ne voulait pas que je mette le nom Arthus Bertrand comme acteur.
Et vous étiez mineur, en plus.
Oui, exactement. J'ai fait un film avec Michel Morgan, c'est une histoire. Vous savez, j'étais parti de chez moi, je vivais un peu dans la rue, je dormais dans les cinémas, c'est drôle, je rentrais dans les cinémas par la porte de sortie et on dormait dedans avec des copains, j'avais 17 ans. J'ai vu Citizen Kane une vingtaine de fois, quand même pas mal. Et je voulais faire du cinéma, et donc j'avais été au studio de Boulogne, et j'ai passé un mois à donner des coups de main, à balayer, j'étais un gosse un peu paumé, et au bout d'un moment, je suis devenu assistant, troisième assistant, puis à un moment, j'ai fait un test pour être acteur, et j'ai eu la chance incroyable de faire un film à Saint-Tropez. Je suis parti à Saint-Tropez, j'ai loué une voiture américaine avec un chauffeur, je suis devenu un peu fou, invité mes copains, j'ai très mauvais acteur, mais voilà, j'ai fait un film, j'en ai fait qu'un, avec Michel Morgan.
Vous n'avez pas fait deux films? OSS 117?
Ouais, j'en ai fait un autre, oui.
Assumé.
OSS 117
prend des vacances. Voilà, et
j'espère que les films ne sont pas... On n'en parle pas, on a dit qu'on en parle pas.
Que les films
les petits pornos à Dunkerque,
on n'en parle pas. Non.
Très bien, pourtant.
Porno vu du ciel, on n'en parle pas. En 76, vous écoutiez... Tabac Mater de Pergolèse, à quoi correspond cette musique?
On était au Kenya, j'avais construit une maison. C'est formidable de construire sa maison soi-même. Ça, c'est un truc inouï que j'ai fait. Pas tout seul, mais de construire sa maison et d'habiter dedans avec sa famille.
On a parlé de l'autonomie il y a quelques jours avec Jean-Louis Etienne et justement le fait de pouvoir être autonome dans sa construction, dans son alimentation en énergie aussi.
J'ai construit ma maison parce qu'en Kenya il n'y a pas de chauffage, la plomberie était comme assez rudimentaire. Donc j'ai construit ma maison et la musique classique on disait quand vous étudiez les lions, vous restez des journées entières à regarder les lions dormir, vous dormez un petit peu, vous bouquinez, vous attendez qu'il se passe quelque chose. Et la musique classique m'a beaucoup nourri à ce moment-là. Là, c'est Sabbath Mater de Pergolèse que j'adore. C'est un moment aussi, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que quand j'étais au Kenya, j'étais très amoureux. Ma femme était venue avec ses deux petits garçons qui avaient 2 ans.
Anne,
voilà, qui avait ces deux garçons que j'ai découverts, qui étaient tout faits. Et j'étais heureux. Et je me suis dit, avec le recul, j'ai pas assez profité de ces moments où on est heureux. Vous savez, souvent, il se passe des moments dans la vie où tout est bien, quand on est amoureux. J'avais un peu le kit complet de l'aventurier en Afrique, la Land Rover,
Et on aimerait ralentir le temps et le suspendre.
Et j'étais bien. Ouais. Et avec le recul, je ne me suis pas aperçu que c'était un moment privilégié. Et d'être heureux, c'est profiter de l'instant présent. Et aujourd'hui...
Carpe diem.
Voilà, je profite plus quand j'ai avec mes petits-enfants. Je me dis, tiens, là, ces moments, il faut que tu en profites, c'est bien. Et je n'avais pas assez profité de ces moments formidables au Kenya, avec mes copains Maasai, avec les animaux. C'est un rêve quand vous êtes photographe animalier et que vous allez vivre pendant 3 ans près d'une famille de lions, dans une maison où les éléphants passent devant la maison, les hippopotames. J'avais tout ce que je rêvais. Et je me suis dit, j'étais trop obsédé par mon travail, par mes études, par mes photos, mon ambition. Je n'ai pas assez profité de ces moments.
On va profiter de la présence de Dominique Sénat à ce micro. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Merci de venir à ce micro. Vous êtes apiculteur dans le Val-de-Marne, secrétaire adjoint de l'Union nationale de l'apiculture française. Vous avez des ruches?
Tout à fait.
Combien de ruches
avez-vous? Une trentaine, une bonne trentaine personnellement.
Et 30 ruches, ça représente combien d'abeilles? On a une idée? Ou on ne se rend pas compte?
À cette époque-ci, avril, on va dire 25 000 abeilles par ruche à peu près, 25-30 000, voilà.
C'est Albert Einstein qui a dit « le jour où la dernière abeille disparaîtra, il restera 2 ans à l'humanité ».
Voilà, oui, il l'a dit, il ne l'a pas dit, mais par contre aujourd'hui, on sait pertinemment que c'est vrai. Voilà, c'est vraiment l'abeille qui nous
tient. On ne sait pas s'il l'a dit, mais on sait que cette prédiction, en tout cas,
le serait. Ce que vous avez dit auparavant, c'est la réalité, malheureusement, et il faut vraiment prendre conscience. Et par contre, c'est plutôt le côté optimiste aujourd'hui, puisqu'on en parle, il y a 20 ans, quand on parlait.
Mais pourquoi l'abeille? Parce que là, on parle de plein d'espèces qui ont disparu. Et pourquoi spécifiquement l'abeille sera un indicateur hyper précis de notre disparition?
Ben parce que l'abeille, dans nos ruchers, on la quantifie. Et il y a 20 ans...
Elle pollinise aussi.
Enfin, oui, mais je veux dire, au niveau de la disparition... Et
non, mais je pense à la question de Daniel. Oui. C'est pourquoi l'abeille est si importante pour la vie humaine?
Eh bien, tout simplement, vous venez de le dire, c'est pollinisation. On a souvent l'abeille en termes de productrice de miel, mais avant toute chose, l'abeille est un excellent pollinisateur, hein, puisqu'on considère qu'une abeille au quotidien c'est à peu près 700 fleurs visitées. Donc 700 fleurs susceptibles d'être pollinisées, donc fécondées. Donc une ruche c'est à peu près 20 millions de fleurs au quotidien. Une ruche, vous vous rendez compte?
Donc c'est la seule manière pour que la nature continue de vivre, d'exister, de se reproduire et que le poumon de la planète continue aussi de respirer.
Mais c'est 80% de la fécondation des fleurs sur cette planète.
Mais ce n'est pas des fleurs, c'est aussi ce qu'on consomme. 30 à 40% de ce qu'on mange dépend des abeilles, on a oublié ça.
C'est ça, c'est tout à fait ça.
C'est incroyable, tous les fruits dépendent des abeilles.
Schématiquement, on enlève un repas par jour.
Voilà. Voilà.
Non, c'est bon, j'ai compris, je me trompe. Merci beaucoup.
Vous êtes inquiet ou au contraire, ce qui est le cas, on voit de plus en plus de ruches dans les villes qui fuient justement les pesticides dans les campagnes.
C'est une très belle démonstration. Vous venez de dire que l'abeille est un pollinisateur, son milieu naturel c'est la campagne. Donc il faut impérativement que ces abeilles et les pollinisateurs dans les grandes largeurs retournent dans leur milieu naturel, c'est-à-dire la campagne. Aujourd'hui, nos ruches urbains vont plutôt bien hein, puisqu'en ville, il n'y a plus de pression chimique. On a une diversité alimentaire, on a les 3-4 degrés de différence par rapport à la campagne. Voilà à peu près le schéma aujourd'hui dans les milieux urbains. Donc les ruchers urbains vont bien, les ruchers en campagne vont plutôt moins bien, puisqu'on est de l'ordre de 30 à 35% de mortalité actuellement dans nos ruchers.
À cause des pesticides?
Entre autres, mais il ne faudra jamais dissocier les pesticides et la diversité alimentaire en campagne, c'est-à-dire qu'il va falloir réintroduire impérativement la rotation des cultures et donner une alimentation diverses et variées à l'ensemble des pollinisateurs. Je dis bien l'ensemble des pollinisateurs.
Alors là, le problème, quand vous parlez de cette diversification, c'est l'industrialisation, le fait que des terres ne soient utilisées que dans un but.
La monoculture.
Et de faire quoi?
La monoculture.
Généralement, c'est...
Donc, c'est céréales, tout ce qui ne va pas être visitable ou visité par les pollinisateurs, tout ce qui ne va
ces
pas...
Ces céréales servent à nourrir?
Oui.
Quoi? Qui?
L'humain.
Mais non, l'humain, beaucoup les animaux, les animaux.
Oui, non, mais indirectement, justement, l'humain par le biais de l'animal.
Non, mais voyez, 80% des céréales qu'on cultive dans le monde servent à nourrir les animaux.
C'est
l'humain.
Donc, c'est, non, mais pour en revenir à cette question que l'on se pose et que je me pose et d'autres avec moi, le bétail, l'élevage industriel, le fait qu'il y a la consommation de ce bétail autour de ce bétail, c'est-à-dire l'eau, c'est-à-dire les terrains, la déforestation qui est faite pour planter du soja, pour mettre des céréales, pour nourrir ce même bétail-là, là aussi, ça fait fuir, entre guillemets, les abeilles, et donc ça crée la monoculture aussi.
L'exemple du moment, la Bavière vient de prendre une décision radicale, c'est à la réintroduction des prairies naturelles. Qui dit prairies naturelles, c'est-à-dire une flore, une faune sauvage, avec tout un tas d'herbes et de plantes visitables par les pollinisateurs. Voilà un exemple concret de ce qu'on peu de ce qu'on doit mettre impérativement.
Donc comme on n'arrivera pas à dire aux industriels de l'agroalimentaire et de l'élevage en batterie de réduire leur masse, leur quantité et leur rendement, il faut que ce soit les consommateurs.
Nous sommes des consommateurs, nous ne sommes plus des consommateurs. C'est-à-dire que nous tous, on a 1 euro, 10 euros, 100 euros, peu importe. Eh bien c'est à nous d'aller mettre 7 euros, c'est 10 euros à l'endroit où on estime que le produit fini est à la hauteur de nos exigences.
Et Dominique, est-ce que ça veut dire aussi réduire la consommation de viande ?
Nous savons aujourd'hui que c'est 20 ou 30% de la production alimentaire qui part directement à la benne sans être touchée. Donc tout ça, c'est vraiment tous ces modèles-là qu'il
faut. C'est
affolant. C'est exactement.
La proportion, elle est dingue.
Donc pour dire aussi que c'est pas l'agriculteur, moi l'agriculteur, il m'a absolument rien fait, c'est ce modèle-là qu'il faut revoir de fond en comble.
Et comment revoir le modèle sans que les agriculteurs ne souffrent, sans
Eh bien
que
les aider,
ce que
vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire les aider. Ils sont enfermés dans un système qui, de mon point de vue, leur a complètement échappé. Ils sont enfermés dans un système
avec des revenus ridicules.
Avec des revenus ridicules. Je me fais un peu l'avocat de l'agriculteur, mais nous sommes nous-mêmes dépendants de l'agriculture, nos abeilles ont besoin du végétal.
Et on a besoin des agriculteurs, mais
tout à fait,
peut-être pas dans ce mode-là de consommation et de fabrication.
Exactement. Donc tout c'est ça, c'est vraiment lié. Il faut impérativement qu'on réussisse à se mettre autour d'une même table et puis qu'on s'écoute et qu'on s'entende pour trouver les solutions ensemble. Nous sommes tous acteurs des mêmes territoires.
Donc vous avez le même discours que Yann Arthus-Bertrand, dire nous sommes consommateurs, c'est à nous décider avec nos moyens, 1 euro, 2 euros, peu importe. C'est pas aux politiciens, on n'a pas à se tourner vers eux en leur disant faites quelque chose.
Bien évidemment, le politicien a le rôle de législateur. Hein, et c'est l'opinion publique aujourd'hui qui doit pousser le politique à se déterminer dans différents points, sur différents sujets. On a parlé des pesticides. Là, on vient parler de l'aide à l'agriculture. De notre point de vue d'apiculteur, là, on sort du grand débat. Nous, dans nos contributions en tant qu'apiculteurs UNAF, eh bien, nous avons demandé à ce que soit incorporé dans ces contributions l'exonération fiscale, par exemple, des 50 premières ruches pour les apiculteurs, parce que nos abeilles participent à la pollinisation globale de l'environnement, mais malgré les pertes massives dans nos ruchers, à 30 à 35%, nous avons quasiment aucune aide. Vous voyez, c'est vraiment tout ça qu'il faut remettre aujourd'hui à plat, parce qu'autrement, on n'y arrivera pas.
Merci Dominique d'être venu à Sous-Écho. Pardon Yann.
La consommation de viande est le double de la démographie en ce moment. L'augmentation de la viande va deux fois plus vite que la démographie. C'est-à-dire que plus...
C'est pas logique, ça.
Mais si, parce que plus un pays devient riche, plus il consomme de la viande. Mmh. Donc, si tu veux, les Chinois, par exemple, consomment cinq fois plus de viande qu'ils consommaient il y a 20 ans. Donc, on consomme tous, dès qu'un pays devient riche, et on est tous beaucoup plus riches, parce que...
Le poumon de la planète en Amazonie, on abat des arbres, on abat des parties entières de forêt pour planter, justement, des céréales, pour nourrir le bétail qui va alimenter les Américains et l'Amérique du Nord.
Et l'Europe, et le soja. On considère, si on prend la région en Bretagne, c'est 1 million d'hectares d'élevage et 1 million d'hectares de soja ailleurs. Vous voyez, c'est tout ça qu'il faut.
Que l'on importe.
Exactement.
Et donc, ils viennent aussi par avion et qui viennent par bateau et qui polluent aussi dans le transport.
Après, il faut chercher à qui profite le crédit.
Dans ce discours pessimiste qu'on a.
Non, justement.
Là, c'est la réalité.
Non, je suis pas pessimiste. Aujourd'hui, le sujet est sur la table. C'est pour ça que je suis optimiste. Je dis, il y a 20 ans, quand on parlait abeilles, tout le monde s'en foutait. Aujourd'hui, c'est vraiment le sujet porté. On voit bien que. On prend de la bière, on prend du whisky, on prend peu importe, il y a de l'abeille partout. Ça veut dire que...
Non mais c'est bien, on en est conscient et c'est bien de le savoir. Après, chacun agit en connaissance de cause.
Il commence à y avoir des actions. On voit bien la loi biodiversité qui est rentrée en application au 1er septembre dernier, c'est-à-dire les 5 molécules qui sont interdites en France. C'est-à-dire qu'actuellement, nos parlementaires ont eu le courage de voter cette loi qui est mise en application. L'Europe est dans la démarche, c'est-à-dire que c'est à nous aussi d'aller aider les parlementaires en disant « voilà ce qu'on a fait, voilà où nous en sommes, il faut aller plus loin ».
Vous les avez interpellés, les futurs élus au Parlement européen?
Mais c'est à nous, nous tous. C'est à nous tous de les interpeller.
Vous savez, quand il y a une manifestation dans la rue pour le changement climatique, on est 50 000, on est très contents. Et quand il y a l'arrivée de la Coupe du Monde, on est 1,5 million dans la rue. Quand on sera 1,5 million dans la rue, les politiques changeront. Tant qu'on sera 50 000, qu'est-ce que c'est que 50 000 personnes dans Paris? C'est ridicule. C'est pour ça que c'est important de manifester.
Alors il y a justement une fête pour l'abeille, Happy Days, API comme apiculteur, pour sacrer l'abeille meilleure ouvrière de France. Ça se passera les 13, 14 et 15 juin. C'est devenu un rendez-vous d'abord gratuit, festif.
Voilà, c'est gratuit, festif, pédagogique. C'est la 10e édition et ça se passe sur à peu près 130 sites en France. Vous allez aller à la rencontre d'à peu près 500 500, 150 apiculteurs, syndicats.
Il y a des ateliers, c'est pédagogique, c'est ludique.
Voilà, c'est vraiment des très beaux moments.
Et ça se passe partout en France.
À peu près 130 sites.
À la Fondation aussi.
Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Dominique, venu à ce micro. Tanguy Pastureau, vous allez nous parler. Bah tiens. Végétarisme.
Oui, parce que nous sommes trois végétariens autour de la table. Dans 6 mois, on sera en majorité. Daniel Morin, désespéré, ira habiter dans l'hippopotamus de la Porte de Versailles en hurlant « Le quinoa, il ne passera pas par moi ». La ville de Pau met en place des menus végétariens dans les cantines et des parents ont peur. Alors il faut pas. Regardez-nous comme on est beau.
On en parle après. La bande originale avec Léa Catherine, Agnès Hurstel, Daniel Morin,
bonjour Nagui,
Alexis Le Rossignol,
bonjour Nagui,
Tanguy Pastureau,
bonjour
Albert Algou,
bonjour.
Que du beau monde pour accueillir Yann Arthus
Bertrand.
Avec la fondation Good Planet qui réouvre ses portes à partir de ce samedi, ce week-end.
C'est demain.
C'est en région parisienne, c'est gratuit, il faut le rappeler. Et c'est ludique, éducatif, communicatif. Et c'est jusqu'à quand? C'est-à-dire que vous fermez à l'automne? Qu'est-ce qui est prévu?
Normalement.
Le 21 septembre?
Le 1er janvier, juste avant le réveillon.
Ah, quand même.
Juste avant le réveillon, oui.
D'accord, parce que la saison vous oblige à laisser respirer les hectares.
Parce que les gens travaillent le week-end, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'activités à l'intérieur, beaucoup à l'extérieur, donc il faisait moins beau. Mais maintenant, cette année, on a beaucoup d'activités à l'intérieur.
Dans la ruche, la fameuse ruche.
Voilà, dans la ruche, dans l'école de cuisine.
Les projections. Alors, l'école de cuisine, ce sont de véritables chefs qui vont venir montrer
comment
cuisiner.
Il y a une vingtaine de petites tables où chacun peut cuisiner, apprendre à faire de la bonne cuisine.
Bio.
Responsable en tout cas.
Très bien. Voilà. Voici Tanguy Pastureau, quelqu'un de responsable. Donc Tanguy, ce midi, on tourne au soja.
Oui, puisqu'il y a plein de végétariens autour de cette table. Monsieur Arthus Bertrand est quasi végétarien par amour de la planète. Vous, Nagui, l'êtes par respect des animaux. Et moi aussi, puisque par 3 fois, je me suis coupé en tentant de retirer la peau du saucisson. Ça m'a stressé. Et dès qu'on l'est, la première question qui vient, puisque les gens sont basiques, c'est « Mais tu n'as pas de carence ?» Alors non. Exemple, un bon indicateur de la santé de monsieur Arthus Bertrand, c'est sa moustache. Et je peux témoigner, puisque c'est la première fois que j'approche de si près la chose, que cette dernière n'a jamais paru aussi fournie et soyeuse. C'est bien simple, on a envie de s'y frotter torse nu. Alors que prenez Franco, Staline ou Pinochet, qui en avait une, ça ne faisait pas ça parce qu'ils mangeaient de la viande, ils avaient le poil dru. Du coup, ça les grattait toute la journée, ils devenaient encore plus irascibles et ce sont les opposants politiques qui prenaient. Ah bah Staline végétarien, faut pas se leurrer, il aurait pris un petit F2 le long du canal Saint-Martin, une fois la semaine, serait allé en Vélib à la Vie Claire chercher ses lamelles de lupin à faire à la poêle, ça aurait été un mec bien. Deuxième exemple, Nagui, qui n'avale que des graines. Il a la même vie qu'un dindon, même s'il ne glougloute que 3 fois par an lors de la parution des sondages radio, où il s'exclame alors, je cite, glouglou, on est en train de niquer Berne, glouglou. Eh bien, Nagui.
C'est la semaine prochaine.
Il vous paraît, donc on verra. Eh bien, Nagui, il vous paraît anémier? Non, c'est petit corps nerveux. Il vous claque 100 pompes au sol en 50 secondes. Vous le lâchez sur un maison de la radio, studio de Taratata à pattes, 9 km, il est fait sur un pied en 7 minutes. Alors, certes, moi, je ne suis pas en grande forme. Je suis claqué, fébrile, vous mettez François Damien, pris au petit matin à côté de moi, les gens lui disent « Ouah, t'as l'air d'avoir la patate, bébé !» Puis il s'écarte afin qu'il vomisse. Mais c'est parce que, contrairement aux 2 autres végétariens ici présents, je ne prends pas de drogue.
Ah ouais.
Je devrais pas en parler ici, mais monsieur Arthus Bertrand, 2 fois l'an, survole la Colombie, repère les meilleurs spots de schnouf, appelle Nagui, lequel vient avec la viande Delphine Ernotte, boss de France Télé, l'air redevant Swan, mais une fois sur deux, Arthus Bertrand a mal vu à cause de la hauteur, et Nagui se retrouve à sniffer du quinoa. Sous le regard interloqué de Colombien qui se mettait à lui dire hey, si tu veux j'ai aussi du boulgour première qualité mec, tu vas planer, tu vas croire que t'es un tapir. Bref, nous pouvons en témoigner, le végétarisme n'entraîne pas de soucis de santé, ni pour l'homme, ni pour le bœuf, qui se sent mieux en un morceau qu'en petit bout vendu sous vide. Mais écoutez, ces bêtes sont simples, hein, du moment qu'elles sont entières, elles sont contentes. Ah bah je vais vous dire, vous vivez avec un bœuf, il n'y a jamais de dispute, hein. Vous avez déjà entendu la phrase oui, je quitte mon bœuf, on n'est plus sur la même longueur d'onde? Ben non, alors que même Angelina Jolie a fini par se lasser de Brad Pitt. Parce qu'être dans un pré à chasser les mouches ne lui suffisait pas à ce connard. C'est pourquoi à Pau, ville où végète François Bayrou, l'ex-paysan béarnais aux mains calleuses qui s'est fait piquer le centre par Macron, les cantines scolaires ont décidé, Nagui, de faire un repas végétarien par mois.
Un seul végétarien par mois, mais c'est pas énorme.
Non, mais ça a suffi à affoler certains parents d'élèves. D'après Clarisse Le Loher, adjointe à l'éducation à Pau, c'est elle qui fait réviser à Bayrou ses conjugaisons puisqu'elle maîtrise que la première personne du singulier. Alors des parents se sont plaints, paniqués en disant qu'on privait leurs enfants de viande.
parce que leur en donnent chaque jour. S'ils pouvaient leur coller un entonnoir et dire à Philippe Etchebest, vas-y gros, fous-y tout le reste de jambon que t'as récupéré des dépôts de bilan des 40 pizzerias pourries que t'as pas pu sauver, ils le feraient. Et puis la viande, pendant des décennies, il y a eu des campagnes disant, mangez-en, sinon dans deux semaines, vous faites le poids de Lily Rose Depp. Ensuite, pour vous déplacer, votre daronne vous met dans son sac à main. Et là, d'un coup, on dit aux gens, écoutez, on vient de réaliser qu'avaler un porc entier par personne sur 5 jours n'est pas si bon pour la santé. Mais on est perdu. C'est comme le diesel. Il y a 10 ans, c'était génial. En 2019, ça fait clamser la planète. Maintenant, quand vous roulez en diesel, la foule vous hue. On entendait, c'est à cause de toi, Flipper le dauphin, il est mort. Alors que non, non. C'est juste que la série s'est arrêtée parce que les scénarios possibles avec un dauphin, il y en a deux. Hein, une fois qu'il a sauté dans un cerceau et prévenu les deux gosses qui venaient de voir Alessandra Sublet topless sur la plage à Saint-Barth parce qu'il a nagé un peu loin, c'est fini. Il vit aujourd'hui à l'aquarium de Monaco, comme tous les mammifères marins qui ont fait de l'argent. Je pense à Willy de Sauver Willy, ou à Fifi, cette dorade avec qui Georges Pernoud de Thalassa a eu une brève aventure, immortalisée par une sextape qui s'est pas mal vendue, hein, sous le ciré. C'est comme sous le manteau, mais à Quiberon. Bref, les cantines se lancent dans le végétarien. À Metz, ça se fait quand même depuis 2014, à raison d'un repas sans viande par semaine. Super. Et les mecs font pas des pâtes aux gruyères, hein. Non, les repas sont conçus par des nutritionnistes. Après, vous les emmenez au McDo, les petits vous disent « Mais papa, tu veux que je meure ?» Et ils fondent en larmes, alors que vous leur avez pris le schtroumpf à 2 euros en supplément. Bref, d'ici 2 ans, auditeur de France Inter, ton arrière-arrière-petit-fils, qui a 6 ans et demi, ressemblera soit à Yann Arthus-Bertrand, soit à Nagui. Quel pied ! Enfin une génération qui sera mieux que les précédentes. Mais il ressemblera peut-être aussi à moi. C'est la loterie.
Merci, salutations. La bulle originale, Nagui.
Et Tanguy, on se retrouve le 6 septembre au théâtre du Jeu de Paume, c'est à Aix-en-Provence.
Je suis pas sûr que ce soit le meilleur moteur pour être végétarien de dire qu'ils vont finir par nous ressembler. Mais bon, en tout cas, on ne peut que se sentir mieux.
Je voudrais encore dire, il faut aider les agriculteurs qui font du bon travail. Il ne faut pas arrêter de manger tout. Voilà, non, mais il y a des paysans qui font bien leur boulot, et surtout
le propos n'est pas d'arrêter, il est de réduire. Quand on j'ai entendu Tanguy le dire, et c'est vrai que dans les cantines, mes enfants ont tous les jours, on leur propose de la viande, tous les jours de la viande rouge.
Voilà, c'est pas toujours de la viande rouge, mais c'est vrai que les parents, moi je le sais parce que j'essaye dans les écoles,
on peut limiter quoi,
qui est une fois par semaine un repas végétarien, c'est souvent les parents qui veulent pas. C'est même incroyable.
Oui, 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 ce qu'il a dit d'ailleurs. Ce qu'il a dit.
Mais c'est important, je pense, et sans tout mélanger, de dire qu'en effet, il y a des éleveurs.
Absolument.
Qui travaillent proprement. Et
qu'il faut les aider.
Il faut les aider parce que ça coûte cher, en effet, de produire de la viande de bonne qualité.
Et
qu'il ne faut pas
je pense que dire qu'il faut réduire l'élevage industriel, la surproduction, la surconsommation, va aider justement les artisans qui le font proprement.
Bien sûr, sauf que dire aux gens de réduire leur consommation ne veut pas dire pour autant qui vont investir dans des viandes qui coûtent donc plus cher et qui sont de meilleure qualité, parce qu'on a aussi un vrai problème économique. Et c'est ce que disait Yann Arthus-Bertrand, pourquoi payer du bio plus cher ? Ben c'est une réalité aujourd'hui. Donc celui qui n'a pas beaucoup de sous et qui va se dire je vais réduire ma consommation de viande, il va peut-être continuer à acheter du poulet industriel. Et c'est là où les politiques ont un rôle à jouer, une
vraie responsabilité.
Parce que ce n'est pas aussi simple.
Qui serait historique. Le politique qui prend ces décisions-là prendra une décision historique.
Il restera dans l'histoire.
Exactement, qui restera dans l'histoire.
Et ça devrait les motiver.
Ces politiques-là, vous les fréquentez ?
Oui, mais j'en parle. Mais
alors vous dites
les hommes politiques aujourd'hui ont d'autres préoccupations.
Mais alors justement, allons plus loin. Pourquoi les préoccupations avec la crise des gilets jaunes où on a, je ne sais pas pourquoi, mais opposé l'économie à l'écologie, alors que les deux devraient aller ensemble. Pourquoi on parle moins d'une manifestation avec 50 000 personnes pour sauver la planète que d'une manifestation avec moins de personnes, mais qui...
Parce que comme toujours, notre vision est à très court terme. On ne va pas voir beaucoup plus loin. On voit le lendemain. Voilà, on est.
Il y a eu des échos de la marche et des marches.
Oui, non, mais 50 000 personnes.
C'est pas assez pour Yann.
Pour Paris, c'est ridicule.
En termes de participants.
Oui, c'est vrai.
C'est un problème.
Mais en même temps, on est toujours
un peu
entre nous. Mmh. C'est un problème.
C'est un problème de mobilisation. Ouais. Les gens se mobilisent pas.
Moi, j'avais un resto Hippopotamus.
Et au McDo.
Non, mais ça avance. Il y a une prise de conscience qui arrive. C'est beaucoup trop lent.
Alors, quel conseil, justement, sur l'alimentation, donnez-vous à la Fondation Good Planet ?
Vous savez, on mange trois fois par jour. Donc c'est un geste qu'on peut faire trois fois par jour, très simple. Et c'est pas toujours plus cher, il faut faire attention à ce qu'on consomme. Mais surtout, c'est de réfléchir. En fin de compte, on vote avec son caddie, qu'est-ce qu'on achète. Donc voilà, acheter des bons produits, responsables, payer, tout être capable de payer plus cher Dominique, aussi des produits quand des gens travaillent mieux.
Ouais.
Et voilà.
Investir.
Investir.
Pour soi et sa santé.
Donc peut-être quoi, alors manger moins, mais manger mieux, c'est ça
je vais pas dire des banalités, mais c'est... L'idée, c'est qu'à travers cette école de cuisine, on peut parler des problèmes du monde, aussi bien du changement climatique, aussi bien des pesticides, du circuit court, puis aussi du plaisir de manger, de plaisir, parce que de faire à manger pour les gens qu'on aime bien, c'est aussi un acte d'amour important. On parlait de ma mère, mais je me souviens que ma mère, elle faisait manger tous les jours pour cet enfant, c'était vraiment un travail quotidien, et elle le faisait avec amour, elle était contente. Puis manger les produits qu'on consomme plus du tout aujourd'hui. Hein.
Enfin, pardon.
Je me souviens de manger de la cervelle. Yann, et aujourd'hui, si je donne sur ça, oui.
Je suis chez moi, j'écoute la radio. Je suis en train de me demander si je vais partir en vacances, si j'ai la possibilité de partir en vacances dans l'année. Et puis, j'entends tous ces bobos parisiens au micro de France Inter qui me disent « Arrêtez, il faut arrêter de prendre l'avion, il faut arrêter de partir, il faut arrêter de prendre votre voiture et arrêter de manger la viande. » Il me saoule à me donner des leçons. Et surtout,
arrêter d'écouter l'émission.
Voilà, c'est ça. Ouais. Il me saoule et surtout, il ne m'encourage pas
leurs conseils. Je répète, agir rend heureux. De faire des petits gestes quotidiens. Si on les fait vraiment, en y croyant vraiment, ça nous fait du bien. Voilà, on n'est pas tous obligés de le faire. Il y a des gens, et on va essayer de les convaincre petit à petit. C'est vrai que c'est difficile et c'est compliqué parce qu'on a ce système, on dépend tous de la croissance ici. On en dépend tous. C'est la croissance, c'est ce qui paye les écoles, c'est ce qui paye les routes, c'est ce qui paye la santé, quoi, voilà. Et donc, d'arrêter tout ça, c'est impossible. C'est presque une décroissance qui est presque un mot mal élevé, quoi, qu'on n'ose pas dire.
Ouais, c'est le minimalisme qui est aussi une tendance à la mode.
Vivre mieux avec moins. Ouais. Il y a des gens qui peuvent, il y a des gens qui peuvent pas. En fin de compte, c'est surtout aux gens qui ont les moyens de faire attention aujourd'hui. C'est pas les gens qui sont, c'est pas la personne qui gagne 1200 euros par mois. Mais même ceux-là, moi qui rencontre énormément de gens qui sont investis, souvent c'est des gens qui ont des revenus simples, qui ont plus d'engagement que les gens qui ont les moyens. Il y a souvent des gens qui ont pris conscience de ça, et ça n'a rien à voir avec le
comme
revenu
ceux qui,
moyen.
C'est voilà. Comme ceux qui font des dons d'ailleurs,
pour
aider l'associatif.
Quelquefois, la Fondation reçoit des dons, mais très petits, des gens qui nous envoient des lettres, mais à pleurer de comme ils sont touchants et gentils, de la tendresse qu'ils nous envoient. Je veux essayer de vous aider, je crois en votre combat. Non, c'est vraiment quelque chose de très personnel et de très intérieur, enfin, c'est très spirituel tout ça. Parce que la révolution, elle ne sera pas ni politique, ni économique, ni technique, elle sera spirituelle. Qu'est-ce que moi, je peux faire pour changer le monde tout seul ?
Spirituel, en ce moment, rime avec Agnès Hurstel. Ah. Ah.
Hier soir, j'ai calculé mon empreinte carbone sur le site de la Fondation Good Planet. Je vous conseille de le faire, c'est ludique, c'est vraiment génial. Et ben, j'ai honte, je suis un porc. Et même, je vais vous dire, un porc est moins sale que moi. Parce que sans rigoler, après avoir fait mon empreinte carbone, j'ai calculé l'empreinte carbone d'un vrai cochon. Mmh. Babe, un porc français lambda, tout rose, de 120 kilos, qui vivrait depuis 16 ans dans un immense entrepôt et adorerait se vautrer dans la boue et ne mangerait que des céréales. Je sais, cette dernière phrase, on dirait un petit peu le début de l'oraison funèbre de Nagui au Panthéon. Mais en fait, non, j'ai vraiment calculé l'empreinte carbone d'un cochon, l'animal. Donc, ce petit cochon est né dans un hangar porcin en zone agricole du Lot, mettons. Il fait... je sais pas comment c'est un cochon. Oui.
C'est pas mal.
C'est Nagui qui vient de le faire, c'était vraiment bien. Il consomme énormément de graines, il a jamais trié ses déchets, babe, jamais vérifié sa console d'électricité, jamais réfléchi au réchauffement climatique, il en a rien à caler de l'humanité. En revanche, contrairement à moi, il n'a jamais consommé de viande, il n'a jamais pris de taxi, il est jamais monté derrière un gars sur un deux roues sans casque et il a jamais pris l'avion. Il a fait un seul voyage dans sa vie, babe, en camion, de son entrepôt jusqu'à la charcuterie de Brive-la-Gaillarde, puis un second voyage le lendemain en Twingo, du stand de charcuterie jusqu'au réfrigérateur de Monsieur Gérard, et ben, babe est hyper clean. Empreinte carbone de pipi de chat. Un cochon qui n'a pas de compensation à faire sur votre site. Il n'a pas, voilà, c'est un précurseur. Un cochon qui, à la veille de sa mort, pourra regarder en arrière et dire, j'ai souffert souvent, je me suis trompée quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu et non un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux, lâches, méprisables, sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose saine et sublime, c'est moi, babe, et mon empreinte carbone, Ricky. C'est vrai que Pierre Ninet fait mieux perdicant que moi, pardon. bon, voilà, moi, j'ai fait mon empreinte carbone, c'est dégueulasse. Depuis un an, en gros, mes émissions carbone sont égales à 10,84 fois ce que la Terre peut supporter par personne, par an, pour stopper l'accroissement de l'effet de serre.
Ah ouais.
Ça me coûte beaucoup, cette confession. Le coût total de mes consommations sont égales à donc 429,08 euros. Je vais vous faire un chèque.
Un an de chronique sur France.
Un an de chronique. Alors que je consomme presque plus de viande, que je suis en vélo, que je fais la guerre au plastique, que je trie, que je plie au supermarché, que Yuka décide de tout ce que je mets sur ma peau et tout.
Vachement bien cette application.
Génial. Ouais. L'énorme problème, c'est donc évidemment l'avion. Vous savez déjà ce que j'en pense. Donc, je sais pas si je vais réussir à ne plus prendre l'avion, mais j'ai parlé avant-hier avec un homme extraordinaire qui décide de ne plus prendre l'avion, qui est un précurseur, qui va aller par exemple aux États-Unis en cargo cet été. Ça va lui prendre 8 jours. Et c'est peut-être ça qu'il faut réfléchir, c'est que maintenant, peut-être la lenteur et le déplacement, c'est ça le voyage. Eh ben, ça fait
cargo,
partie.
Le cargo, il pollue aussi.
C'est ce que je lui ai demandé. Il me dit non, parce que je sais pas quoi. Je vais pas pousser là. Je vous en ferai une chronique
la semaine
prochaine.
C'est un
cargo à voile. Non, mais est-ce qu'il faut pas réfléchir à voyager en ayant le temps? Enfin, que le déplacement devienne
ouais, déjà, voyage. Le train, déjà
la lenteur.
Le voyage. Déjà le train.
Sylvain Tesson.
On pourra tous relire On ne banine pas avec l'amour comme ça sur le cargo. Namasté, bonne semaine.
Justement, quand vous entendez, quand vous croisez toutes ces nouvelles générations, les élèves de vos 12 écoles, Yann Arthus-Bertrand, vous dites que cette nouvelle génération arrive d'une manière plus éclairée, plus concernée que ce qu'on a pu l'être nous, nos parents.
Vous savez, je me souviens, j'avais fait une projection de mon film Planète Océan dans une école, et il y a un petit garçon qui m'a dit « Mais monsieur Arthus-Bertrand, c'est quand la fin du monde ?» C'est pas rigolo d'entendre parler, de dire ça. Ça me fait pas rire. Et j'ai dit, mais tu sais, moi, la fin du monde, j'y crois pas vraiment. Je veux pas y penser. Et il me dit, mais moi, vous savez, je regarde les journaux, je regarde la télé, j'écoute la radio. Voilà, j'écoute les scientifiques. Et alors, j'ai demandé aux enfants qui étaient dans la salle, il y avait environ 300 enfants, quels sont ceux qui croyaient à la fin du monde. 70% des bras se sont levés. Mais ça vous fait pas rire de penser que ces enfants savent très bien, cette génération-là qui vient, sait que le monde de demain sera difficile. Donc c'est quelque chose...
D'autant que c'est à cause d'eux, parce qu'il y a trop d'enfants, justement. Et la surpopulation...
Bon, on peut pas dire ça.
Ok, je peux pas faire... Okay, on peut pas faire des vannes partout.
Tu parles de toi Non, parce que depuis tout à l'heure, on parle de la viande depuis tout à l'heure, tout ça. Mais alors, les gosses, c'est fastoche, ça consomme. Les mails, les réseaux sociaux, les trucs... Non, mais voilà, ça va bien maintenant.
Oui, Internet, ça consomme.
Mais c'est des comptes. C'est une pollution énorme.
On dit que les data centers, c'est presque 10% de l'électricité du monde. C'est incroyable.
Dingue. Et les crypto-monnaies aussi, c'est un truc incroyable. Oui.
Parce que ça consomme et ça pollue.
Alors que ça paraît intangible, donc on se dit non, pas mais que ça...
Oui, on dit c'est immatériel. C'est...
Exactement.
Et pourtant, ça consomme et ça pollue.
Et même ce qui semble être un peu plus écolo, je vois les sacs en tissu qu'on a tous, les tote bags. Mais on pourrait faire un continent de tote bags tellement on en a partout.
Exactement.
On en vend et c'est des tissus en plus qui ne sont pas forcément recyclables.
Non, mais par contre, c'est réutilisable. Ce qui n'est pas le cas de tous les sacs.
Sauf que quand on a 15, 20 chez toi, je vois pas si
et
c'est...
Les t-shirts, ouais, les t-shirts qu'on vous offre. Un Américain reçoit 17 t-shirts publicitaires par an. Mmh. Un Français en reçoit 7.
C'est énorme. Voilà.
Mais ça, c'est...
Moi, je reçois encore t-shirts.
Bah, si tu fais des...
Ça veut dire qu'il y en a qui en reçoivent beaucoup.
Non,
quoi.
Si,
c'est ça.
Si tu fais
zéro t-shirt.
Moi, j'ai la casquette votée Philippot.
T'as toujours un t-shirt.
Tu fais quoi, toi?
J'ai la casquette votée Philippot, mais elle me va pas, sinon je la mettrai tous les jours.
Et en même temps, ces t-shirts, ça donne du travail à des gens au Bangladesh. Voilà. Donc voilà.
Oui, mais enfin, qu'ils sont sous-payés aussi. Arrêtons.
Mais ils sont payés quand même, sinon ils auraient...
Ouais, c'est toujours ça le problème.
Il y a toujours le problème. Est-ce qu'il faut manger des haricots verts en hiver qui viennent du Kenya? Il y a une enquête qui a été faite il y a pas très longtemps par un journaliste
qui dit qu'il faut
manger des haricots verts qui viennent du Kenya, que ça donne du travail.
Mais ils viennent en avion, donc ça pollue.
Je suis d'accord, mais c'est utile quand même. Voilà, et donc il y a toujours une réflexion à voir.
C'est très compliqué.
Mais c'est le monde dans lequel on vit.
Ce qui n'est pas simple non plus, c'est que votre film Woman est absolument formidable, co-réalisé avec Anastasia Mikova, c'est ça, qui sortira en fin d'année, et vous êtes allé le présenter à New York. J'imagine que vous n'êtes pas allé en cargo. Vous êtes allé à New York le présenter aux Nations Unies. Ouais. Parce que,
il y avait une grande réunion. En fin de compte, c'était un film qui est...
C'était
on a
là
la chance
où,
d'avoir
a,
des mécènes.
Il y a 15 jours.
Oui, et donc, c'est un film qui va pouvoir être distribué gratuitement dans toutes les ONG du monde. Donc, il y avait une énorme réunion organisée par UN Women, qui est l'organisation des femmes du monde. Et donc, on a été présenté. Un teaser, le film n'est pas fini. Le film sera fini à la fin du mois d'août.
Et voilà. Vous avez commencé avant l'affaire Weinstein, avant l'histoire de MeToo, avant... avant toutes ces histoires.
Quand on avait fini Human...
Il y avait déjà les échos de ces problèmes.
Non,
de ces
mais mots. On s'est aperçu que les femmes avaient envie de parler en ce moment. Il y a des femmes, quand vous mettez une femme qui n'a jamais parlé devant aucun micro pour la première fois de sa vie, elle dit des choses qu'elle n'a jamais dites. Vous savez, ces interviews qu'on fait sont très intimes et... C'est un film formidable, mais je le fais surtout avec une équipe de femmes, parce qu'on est deux garçons dans une équipe de 20 personnes. Je peux vous dire, on n'a pas toujours la parole facile, mais c'est un film extrêmement émouvant. On l'a montré hier soir, justement, à quelques mécènes, et les gens ne pouvaient pas parler pendant 5 minutes. C'est très intime et formidable, formidable.
Vous avez parlé de Legacy, donc votre nouveau projet sur, justement, l'héritage que nous allons laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, et l'incohérence.
C'est la suite de Home. Oui.
Voilà. Et puis alors, vous avez été nommé censeur. Alors, est-ce que vous pouvez... Non, c'est pas censeur ?
Si, c'est ça.
Bah oui.
C'est votre course sonorome à vous, c'est ça
Vous n'avez que des frères.
C'est LVMH, le groupe Louis Vuitton, donc, qui nomme une nouvelle administratrice. Et donc, vous êtes le censeur de ce groupe. Expliquez-nous votre mission.
Je me suis demandé d'ailleurs ce que j'allais faire à ce conseil d'administration, mais c'est comme une des plus grosses boîtes du monde.
Ils vont arrêter de faire des jupons en veau grâce à vous.
Est-ce que vous êtes contre la fourrure ? Je dis oui, je suis contre la fourrure. Est-ce que vous êtes de Concodil ? Oui, je suis contre Concodil. Ils m'ont quand même demandé de venir pour réfléchir. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une enquête il n'y a pas très longtemps des étudiants de grandes écoles qui veulent travailler dans des boîtes qui ont du sens. Et je pense que toutes ces grandes boîtes cherchent du sens. Voilà, donc j'ai passé une heure à discuter avec Bernard Arnault d'écologie, d'environnement. Et voilà, j'ai peut-être amené un petit peu quelque chose.
En tout cas, si vous avez écouté, c'est déjà formidable, parce que c'est vrai que c'est un groupe très puissant. C'est le premier groupe français du luxe.
J'ai senti que j'allais pouvoir être utile, et je pense que si on veut changer le monde, c'est beaucoup plus facile de le changer de l'intérieur.
Discuter avec tout le monde.
En
tout cas,
je pense qu'on ne changera pas le monde sans l'industrie.
C'est vrai que j'arrive dans un monde qui n'est pas bien. Ce sont des acteurs comme ça aussi qui ont du poids et de la force, parce que s'il n'y a plus de fourrure, s'il n'y a plus d'animaux tués pour fabriquer leurs vêtements, aussi riches qu'ils soient, les clients n'auront pas à les consommer.
Non, mais je pense que toutes ces grosses boîtes-là qui n'ont pas du sens, les clients s'en détourneront, les collaborateurs surtout veulent donner du sens, et puis les actionnaires, donc c'est important. Voilà.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Oh, bien entendu, et désolé pour Monsanto, l'agriculture intensive, les engrais chimiques, l'industrie très lourde, le diesel et toutes ces belles choses qui ont été critiquées, attaquées, agressées par tous les bobos, gauchos, quinoa lovers autour de la table. Vous me dégoûtez, mais c'est tellement bon une omelette jambon plastique et glyphosate. Vous n'y connaissez rien en bon goût. Alors désolé pour Mick Jagger, encore Eddie de Preto, les stars qui auraient rêvé d'être photographiés par Yann Arthus-Bertrand. Pas de bol, les gars, maintenant ils préfèrent le pape et les papous. Et en même temps, Mick et Eddie, vous êtes quand même sacrément moches. Désolé pour nos fidèles auditeurs qui ont été étonnés, décontenancés, presque écœurés par l'émission de ce matin, où l'emploi des mots bienveillance, empathie, amour ont été développés.
C'est choquant.
Même moi, j'ai un peu la nausée. Heureusement, on se rattrape. Dès lundi, on parlera mort violente et ambiance glauque avec Jean-Hugues Anglade.
Oui, qui après son succès du premier épisode a le deuxième épisode sur Fred Vargas et la recluse réalisé par José Dayan. On en parlera avec lui lundi. France Inter est partenaire de la diffusion sur OCS de l'ultime saison de Game of Thrones. France Inter, la radio des séries, propose un podcast Inter is Coming, j'aime bien le jeu de mots, à découvrir sur franceinter.fr, et à cette occasion il y aura une nuit spéciale en attendant GOT présenté par Fred Sigris dans la nuit de dimanche à lundi. Ce week-end, de minuit à 3h du matin, à suivre également en Facebook Live. Merci beaucoup, Yann Arthus-Bertrand, de nous avoir éclairé et puis surtout de relancer cette fondation Good Planet à partir de ce samedi, de demain, donc ce week-end, et ce pendant quelques mois. C'est gratuit, je le rappelle, et on y va en famille.
Vous pouvez rester 10 heures avec tout ce qu'on a montré cette année. C'est vraiment passer la journée entière.
C'est un endroit formidable. Merci, merci. Bon week-end, Arthus-Bertrand. À lundi avec Jean-Hugues Anglade, dimanche dans Vous les femmes, Daniel.
Dimanche, Véronique de Viguerie, photo-reporter de guerre, dont les photos utilisées pour l'album Reporters sans frontières, et les excellentes Camille et Julie Berthollet.
Tout de suite, Karine Topin, Philippe Bertrand, bonne journée sur Internet.